9h-10h, France Bleu Champagne Ardenne, les experts.
Et les pompiers de Champagne-Ardenne sont là pour vous répondre ce matin. Toutes vos questions sur les accidents domestiques, sur les conduites à tenir, sur les chaînes partagées, sur les réseaux sociaux. Si vous avez un doute de leur véracité, posez la question pour être fixé. Le moment venu, si jamais vous avez besoin d'utiliser ces gestes, savoir si au moins ils sont efficaces ou pas, ou dangereux ou pas. 03 26 50 81 81. Bonjour Sébastien Georgiades.
Bonjour.
Des sapeurs-pompiers de Champagne-Ardenne. Alors, on a une première question de Monique de Reims. Est-il vrai qu'il ne faut jamais taper dans le dos de quelqu'un qui tousse ?
Alors, on peut voir la question sur deux points. La première, il y a deux cas, en fait. Si la victime a une obstruction partielle ou totale. La différence se fait si la victime peut tousser, on considérera comme une obstruction partielle. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas taper dans le dos. Par contre, si c'est une obstruction totale, c'est-à-dire que la victime ne peut pas tousser, là oui, dans ce cas-là, il faut mettre des claques dans le dos, 5 claques dans le dos.
Donc un enfant à qui on achète un croissant avec du sucre glace sur le croissant, s'il aspire du sucre glace et qu'il se met à tousser, il ne faut rien faire.
Alors, il faut
pas lui taper dans le dos.
Non, il ne faut pas le taper dans le dos, ça c'est déjà assez sûr, puisqu'on risque d'aggraver l'état de l'enfant et de faire une obstruction totale. Par contre, il faut essayer de l'asseoir, le calmer, et puis appeler le 15 pour avoir un avis médical.
En revanche, si on est à la maison avec un parent, par exemple, qu'on mange un steak et qu'à un moment la personne se lève et ne peut plus parler, là ça veut dire obstruction totale ?
Tout à fait, là c'est
donc
une obstruction totale.
En cas d'obstruction totale, on ne tousse pas, hein, c'est
alors,
impossible de tousser.
Voilà. En cas d'obstruction totale, on ne peut pas tousser, il n'y a pas de son qui sort de la victime, et puis la victime va essayer de chercher de l'air. Et dans ce cas-là, par contre, là il faut mettre 5 claques dans le dos, ou alors on arrête dès que l'objet est ressorti.
D'accord, donc 5 claques dans le dos, au milieu des omoplates, c'est l'endroit
c'est
idéal.
C'est ça, avec le talon de la main, entre les deux omoplates, on met 5 claques dans le dos. Si c'est efficace avant, on arrête, et si au bout de 5 claques ça ne fonctionne pas, on fera ce qu'on appelle des compressions abdominales. On appuiera sur l'abdomen de la victime.
Donc là, il y a des vidéos qu'on trouve sur internet qui montrent cette fameuse méthode d'Emlich. Comment savoir si ces vidéos sont fiables ? Est-ce qu'il y a un site internet officiel et fiable qui nous donne des vrais bons conseils vérifiés, validés ?
Alors non, sur Internet, il n'y a pas vraiment de vidéo qu'on peut affirmer, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent sur Internet que c'est pas sûr d'être fiable. La seule façon d'avoir la méthode fiable, c'est de faire la formation de premier secours civique dans une association agréée.
Donc ça dure combien de temps, cette formation premier secours ?
Alors cette formation premier secours dure 7 heures, c'est réglementé au niveau national, et diverses associations le font au niveau national.
Et ça peut permettre de sauver la vie à un proche, à un inconnu, à un collègue de travail. On se demande pourquoi la France est si en retard dans tout ça.
Oui, tout à fait. C'est des formations qui sont importantes et on est en retard. Alors le gouvernement essaye de faire son maximum et d'imposer cette formation, notamment dans les collèges. Mais en effet, on a beaucoup de retard. C'est une formation qui est très simple à faire. Il suffit de s'inscrire dans une association, d'avoir une journée. Les dates sont diverses et variées, donc on a vraiment la possibilité de le faire. Et après, on peut sauver des vies, des proches et même d'autres.
C'est payant ou il y a des aides pour faire ça ou c'est de notre poche ? Si on veut être de bonne volonté, on doit payer ?
Alors, soit vous pouvez le faire de vous-même, soit après, il y a des associations ou des employeurs qui prennent en charge cette formation.
Alors, j'ai vu aussi des statistiques qui montrent que les accidents domestiques sont très nombreux en France. Par exemple, chaque année, il y a plus de morts, il y a plus de Français qui décèdent de chutes dans les escaliers que d'accidents de la route. On va parler justement de ces accidents domestiques, de leur prévention, et puis s'ils arrivent, des conduites à tenir. Et là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues à démonter. On va voir ça avec vous, les pompiers, Sébastien Georgiades, juste après. Alios sur France Bleu. Alioz sur France Bleu avec Loin, Téléphone, Red Charles ou encore Amir. C'est tout ça avant 9h45. Nous sommes avec les pompiers de Champagne-Ardenne pour répondre à toutes vos questions sur les conduites à tenir en cas d'accident, les idées reçues, les fausses chaînes aussi partagées sur les réseaux sociaux. Si vous avez le moindre doute, les pompiers sont là pour vous. Posez-leur vos questions. 03 26 50 81 81. Sébastien Georgiades, je regardais les statistiques des accidents domestiques et il y a des chiffres particulièrement parlants, notamment en France, il y a plus de morts suite à une chute dans les escaliers que dans les accidents de la route. Alors en cas de chute, tout d'abord, si on en est victime ou si on remarque quelqu'un qui chute, qui se fait mal, quelle conduite à tenir en attendant l'arrivée des pompiers ?
Alors si c'est une chute et que la victime est encore consciente, ce qu'il faudra faire, c'est surtout lui demander de ne pas bouger, puisque si elle bouge, elle risque d'aggraver son état. Donc lui demander vraiment de ne pas bouger et lui maintenir la tête, ce qui permettra d'éviter de bouger la colonne vertébrale et donc d'aggraver l'état de la victime.
D'accord.
Et après, si elle est inconsciente, par contre, donc il y aura des gestes à faire, comme la mettre sur le côté, en position latérale de sécurité.
Même si potentiellement elle a des membres cassés, vaut mieux quand même la bouger, la mettre sur côté si elle est inconsciente, donc.
Alors tout à fait, puisque si on la laisse à plat dos, elle risque de s'étouffer avec la chute de la langue en arrière, ou en avalant du sang ou du vomi. Donc il faut vraiment la mettre sur le côté pour éviter donc d'aggraver son état.
Donc ça, c'est valable pour tout le monde, adultes, enfants, personnes âgées, c'est la conduite à tenir.
Tout à fait, c'est la conduite à tenir pour tout le monde.
Quand cette personne est inconsciente, pour vérifier qu'elle est inconsciente, c'est assez simple, c'est quoi ? On lui parle, si elle ne répond pas, on en déduit qu'elle est inconsciente ?
Alors c'est tout à fait ça. En fait, pour voir si la victime est inconsciente, on va lui poser des questions. Juste serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Si elle ne répond pas, on va essayer de la secouer un petit peu légèrement l'épaule. Et si elle ne réagit pas, pour nous, elle sera inconsciente. À partir de là, on vérifiera si elle respire. Juste en approchant notre tête de sa bouche, pour vérifier si on sent un souffle et si on entend du bruit.
Donc si elle respire, on va dire que ça va, on la met sur le côté et ça suffira pour attendre l'arrivée des secours. Si elle respire pas, est-ce qu'on peut tenter autre chose ?
Tout à fait. Donc si elle respire, on la mettra sur le côté. Si elle ne respire pas, on fera ce qu'on appelle du massage cardiaque. Donc on appuiera sur la poitrine pour remplacer le rôle du cœur en attendant les secours. Et si on sait faire, on fera des insufflations, du bouche à bouche à la victime.
Donc si elle ne respire pas, ça veut dire que le cœur ne bat pas non plus ? Il n'y a pas besoin de prendre le pouls ?
Non, on ne prend pas le pouls. Si elle ne respire pas, pour nous, elle sera en arrêt cardiaque. Donc c'est-à-dire que le cœur ne fonctionnera pas.
D'accord. Donc massage cardiaque et si on sait, bouche à bouche.
Tout à fait.
La fréquence des nombres de compressions thoraciques et des insufflations bouche à bouche, c'est combien ?
Alors on fait 30 compressions et 2 bouche à bouche. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on nous ramène les fameux défibrillateurs. Si les gens le connaissent, ou alors on fait ça jusqu'à l'arrivée des secours.
Donc c'est bon de savoir si on habite dans un village ou dans un centre-ville, où sont les défibrillateurs les plus proches. Parfois il y en a dans les magasins, dans les salles des fêtes, dans les piscines, dans les mairies, dans les gares.
Tout à fait, on en trouve dans un peu tous les lieux publics, et si on ne sait vraiment pas où il est, en passant l'alerte au centre 15, ils pourront vous dire où est le défibrillateur le plus proche.
D'accord, ah oui, tout est répertorié. On a le droit de prendre le défibrillateur comme ça, sans demander d'autorisation, en disant « Oh là, il y a une urgence, je le prends, je m'en vais, on en a besoin tout de suite », même si c'est dans un endroit privé.
Alors, soit il est en accès libre et vous pouvez le prendre sans aucun souci, soit il est dans une entreprise ou dans un lieu privé, et dans ce cas-là, il y aura toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour pouvoir vous le donner.
Et l'utilisation du défibrillateur, tout le monde peut s'en servir ? C'est automatique ? Enfin, ça explique tout au fur et à mesure, toutes les étapes de l'utilisation ?
Alors tout à fait, il n'y a aucun risque à utiliser un défibrillateur, tout le monde peut l'utiliser, il vous guidera dès que vous ouvrez le défibrillateur, la pochette du défibrillateur, il vous guidera jusqu'à l'utilisation complète de cet appareil-là. Il n'y a vraiment aucun danger à utiliser le défibrillateur.
S'il y en a un dans son entreprise, le mieux c'est de demander à sa direction ou au sauveteur secouriste du travail de nous faire une petite démonstration, de le déballer au moins une fois pour voir à quoi ça ressemble.
Alors oui, le mieux c'est quand même de faire une formation sur l'utilisation du défibrillateur, ça enlèvera tous les a priori, et soit vous pouvez le faire par les sauveteurs secouristes du travail, s'il y en a, soit dans une association aussi agréée, ils font des formations uniquement d'une heure à l'utilisation du défibrillateur.
Donc ça, c'est en cas d'arrêt cardiaque, quand la personne ne respire pas. Donc il y a le massage cardiaque et le bouche à bouche, ça c'est une chose, ou au moins que le massage cardiaque, et le défibrillateur. Les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre ?
Alors les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre, tout simplement puisque notre cœur fonctionne avec deux activités, une activité mécanique, qui est une pompe, et une activité électrique. L'activité mécanique sera remplacée par le massage cardiaque.
Donc pour continuer de faire tourner le sang dans le corps, voilà. Et d'irriguer le cerveau, c'est ça ?
Tout à fait, pour continuer à faire circuler le sang et d'oxygéner donc tous les organes nobles, le cœur, le cerveau et les poumons. Et ensuite, le défibrillateur, lui, relancera l'activité électrique.
Donc potentiellement, pourra refaire partir le cœur ?
Tout à fait, c'est ça, pour faire repartir le cœur.
En attendant l'arrivée des professionnels. Voilà. 03 26 50 81 81. Il y a aussi dans les accidents domestiques l'ingestion de produits. Alors ça concerne essentiellement les enfants. L'ingestion de Javel. Alors on dit plein de choses, qu'il faut faire vomir ou pas, qu'il faut donner du pain ou pas, qu'il faut donner du lait ou pas. Là aussi, on va démêler le vrai du faux sur France Bleu dans les experts, juste après téléphone.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui fasse s'en aller. Le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché,
s'élever. Téléphone sur France Bleu.
Jusqu'à 10h, France Bleu Champagne Ardennes. Les experts.
Et les experts aujourd'hui sont les sapeurs-pompiers de la région qui répondent à vos questions. 03 26 50 81 81. Sébastien Georgiades, dans la partie accident domestique, il y a, et vous le constatez régulièrement dans vos interventions, les ingestions de produits. Ce sont surtout les enfants qui boivent des produits ménagers.
Tout à fait, c'est vraiment les enfants qui sont vraiment concernés par ce type d'intervention. Donc déjà, pour éviter ça, il faut éviter et arrêter de mettre des produits toxiques comme l'eau Javel ou d'autres dans d'autres récipients, dans des bouteilles en plastique, puisque les enfants le prennent après pour de l'eau et l'ingèrent.
Donc ça, c'est la prévention. Garder les vraies bonnes bouteilles avec les bouchons de sécurité. Éviter de les laisser trop à la portée des enfants, enfin dans les meubles bas. Si jamais ça se produit et qu'on constate que son enfant, par exemple, a bu de l'eau de Javel, il y a plein de on-dit. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Le lait, le pain, faire vomir ou pas.
Alors tout ça est vraiment faux. Ce qu'il faut faire, c'est asseoir l'enfant, ne rien lui donner ni à manger ni à boire, puisque tout ce qu'on va lui donner risque d'aggraver son état. Il ne faut pas le faire vomir non plus, puisque le produit sinon va brûler deux fois au niveau de l'organisme, puisqu'en ressortant, il brûlera toujours. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'asseoir, ne rien lui donner, et appeler les secours, voire le centre même anti-poison.
Au choix, si on a les deux,
vaut mieux appeler les secours, le 15.
Est-ce que centre anti-poison, c'est souvent Lille, Nancy, Paris?
Il y en a un sur Reims. Je peux vous donner le numéro, il est au niveau du CHU de Reims, mais eux ne se déplaceront pas, ils vous donneront un conseil.
D'accord.
Par contre, s'il y a vraiment eu une ingestion de produit, il faut faire le 15 pour qu'ils puissent envoyer les sapeurs-pompiers sur les lieux d'intervention.
Le 15 plutôt que le 18?
Alors, dans tous les cas, si c'est pour ce type d'intervention, si vous faites le 18, ils vous basculeront sur le 15, puisque c'est eux qui décideront d'engager les sapeurs-pompiers ou non.
Parce que quand on appelle le 15, c'est un médecin qui répond?
Alors, c'est un permanencier qui a un médecin à côté pour avoir un avis médical. Et par rapport aux renseignements que vous allez lui donner, ils décideront soit d'envoyer uniquement les sapeurs-pompiers, soit d'envoyer les sapeurs-pompiers plus un médecin avec lui associé.
En général, l'enfant reste conscient quand il ingère ce type de produit?
Oui, tout à fait. Il reste conscient. Il y a des brûlures, donc il pleure beaucoup. Donc voilà, il faut le prendre en charge et l'amener dans une structure hospitalière pour déjà enlever le produit qu'il a ingéré et puis nettoyer toutes ses brûlures, traiter toutes les brûlures.
Donc, ne pas faire boire, ne pas faire manger, ne pas faire vomir.
Tout à fait, c'est vraiment les grands conseils, le laisser assis, le rassurer et appeler les secours.
Autre accident domestique, il y a les brûlures. Alors là aussi, on entend tout et n'importe quoi. En cas de brûlure, mettre de l'huile, du beurre, un corps gras, ça fait du bien. C'est vrai ou c'est faux?
Non, c'est faux. Ce qu'il faut faire sur une brûlure, alors déjà, c'est enlever le danger, donc enlever la source de brûlure. Et ensuite, pour traiter la brûlure elle-même, il faut mettre sous de l'eau tempéré, entre 15 et 20 degrés, sans
l'eau froide
sans
du
pression,
robinet,
voilà, l'eau froide du robinet, et laisser refroidir jusqu'à avoir un avis médical.
C'est mieux d'avoir de la pression ou d'avoir de l'eau qui coule de manière douce?
Non, il faut de l'eau qui coule de manière douce, directement sur la brûlure, puisque si on met de l'eau trop forte, ça fera mal à la victime.
Si jamais le vêtement colle, on le laisse, on le découpe, on fait quoi?
Alors si le vêtement colle, on le laissera sur la peau de la victime, ce sera dans le milieu hospitalier qu'on lui retirera.
Donc l'eau froide, pendant une durée importante, au moins 10-15 minutes, c'est vraiment le mieux pour la brûlure en attendant les secours?
10 minutes minimum, et après, selon l'avis médical du médecin, laissez sous l'eau, si le médecin vous le dit, en attendant l'arrivée des secours. Ça soulagera la victime, et ça évitera l'aggravation de la brûlure.
À partir de quand on sait qu'une brûlure est grave? Parce que ça nous arrive tous de se brûler sur une casserole, en sortant un plat du four, sans pour autant appeler les pompiers?
Alors, pour savoir si une brûlure est grave, il y a d'abord la localisation. Selon où se trouve la brûlure, ce serait une brûlure grave ou non. Ouais. Il y a également l'étendue et l'aspect de la brûlure. Du moment où c'est une brûlure qui est noirâtre, ce sera toujours une brûlure grave. Une brûlure avec des cloques multiples, ce sera toujours une brûlure grave. Une brûlure chez un enfant sera considérée toujours comme une brûlure grave. Mais dans tous les cas, si ça arrive chez vous, ce qu'il faut faire, c'est vraiment appeler le 15 pour avoir un avis médical et refroidir la brûlure en attendant.
Ceci dit, même une toute petite brûlure avec une casserole ou en sortant un plat du four, cette méthode de mettre le doigt tout de suite sous l'eau, ça enraye la brûlure et ça empêche peut-être d'avoir des cloques ou du moins ça limite les dégâts.
Tout à fait.
Même déjà, si on n'appelle pas les pompiers.
Oui, même si vous n'appelez pas les pompiers, déjà le fait de mettre la brûlure sous l'eau, ça soulagera la douleur, puisque c'est vraiment violent comme douleur une brûlure. Et ensuite, ça évitera l'aggravation, ça limitera la brûlure en profondeur.
Ça l'enraye.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas plus mal. Donc, pas de corps gras, pas de beurre, etc.
Non.
De l'eau froide pendant un bon temps, quand même.
Oui.
Il ne faut pas le laisser que quelques secondes.
Non, non.
Et ça ira mieux. Et surtout, pas enlever les vêtements de la personne qui a été brûlée. Sauf s'il ne colle pas. Si ça ne colle pas.
S'il ne colle pas et qu'il y en a nécessité pour refroidir, on peut les retirer. Maintenant, s'il n'y a pas nécessité, on peut laisser les vêtements et refroidir tranquillement dessus.
03 26 50 81 81. Les pompiers sont avec nous dans les experts pour répondre à vos questions. On parle notamment des accidents domestiques et on va parler des coupures, des saignements, de potentiels garrots aussi. Là, ça peut même s'élargir à l'actualité face au risque d'attentat. Les garrots, c'était proscrit en fait jusqu'aux attentats et maintenant ça revient dans les gestes de premier secours. On verra pourquoi et quelles précautions prendre avant de prendre un garrot. C'est dans les toutes prochaines minutes sur France Bleu. France Bleu.
Cette semaine dans Bulle de musique, découvrez le groupe Love Drive, hommage à Scorpion. Love Drive dans Bulle de musique, c'est samedi 18h-19h, la rediff dimanche 14h-15h et en extrait toute la semaine 18h10.
Bonjour Stéphane.
Alors comme ça, vous voulez une véranda Akena ?
Oui, c'est pour une de mes très chères amies. Elle la souhaite personnalisée.
Ça tombe bien Stéphane. Chez Akena, c'est du sur-mesure.
Formidable. Dans ce cas, sachez qu'elle souhaite une véranda Akena tout en longueur, avec beaucoup de miroirs et des bronzes, et éblouissante comme la galerie des glaces. Vous voyez ?
Oui. Alors par contre, je vous préviens, on ne fait pas les chandeliers.
Akena, élu leader 2017 par le magazine Capital pour sa qualité de service.
Akena, la reine des vérandas.
Poitiers, Villoire, Rocroi, Joncherie-sur-Vel. Vous écoutez France Bleu Champagne-Ardenne.
Georgia, Georgia, the whole. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you. As sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song. Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you.
Hi Charles, Georgia on my mind sur France Bleu. Dernière partie des experts avec les pompiers de Champagne-Ardenne qui répondent à vos questions. Sébastien Georgelès notamment. Alors on a fait une belle partie sur les accidents domestiques. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, ce sont les coupures, les saignements. Alors quand on se coupe, comment savoir si c'est grave ou pas? Si un simple pansement suffit? S'il faut recoudre? S'il faut faire un point de compression, un garrot? Expliquez-nous.
Alors déjà, il y a tout ce qui est plaie. Les plaies, c'est une petite éraflure, une petite coupure qui peut arriver à tout le monde. Dans ce cas-là, si c'est pas localisé à certains endroits, ce seront considérés comme des plaies simples. Donc dans ce cas-là, il suffit de nettoyer, mettre un pansement. Si après il y a des démangeaisons ou des gonflements, demandez un avis médical. Après, si c'est des plaies, donc il n'y a toujours pas beaucoup de sang, mais qui sont situées au niveau du thorax ou de l'abdomen, avec un couteau, avec une tronçonneuse, voilà, des choses comme ça.
Sauf que là, un pansement ne suffira
pas. Un pansement ne suffira pas. Donc, dans ce cas-là, s'il y a beaucoup de sang, ça, on considérera ça comme une hémorragie. Donc, dans ce cas-là, on verra tout à l'heure ce qu'il faut faire. Mais si ça ne saigne pas beaucoup, parce que c'est un coup de tournevis, par exemple, dans le thorax, il faudra mettre la victime en position d'attente. Donc, la position d'attente, si c'est une blessure au niveau du thorax, on l'assoit. Si c'est une blessure au niveau de l'abdomen, on l'allongera et on surélèvera les jambes. Et on demandera un avis médical.
Et ces positions donc sont à l'initiative de la personne qui est là, ou alors si la victime est consciente, on doit écouter ce qu'elle dit selon son confort, ce qu'elle préfère.
Alors bien sûr, si la victime est consciente, dans tous les cas, on la mettra aussi dans la position où elle se sent le mieux.
Oui.
S'il n'y a pas de préférence, on la mettra dans les positions que je vous ai données juste avant. Par contre, si elle est inconsciente, dans tous les cas, même si c'est une plaie, on la mettra en PLS, sur le côté.
On va juste répéter, si c'est au niveau du thorax, donc c'est
demi-assis.
Si c'est au niveau des abdos ou en dessous de la cage thoracique,
on allonge la victime et on surélève les jambes.
Ça, malheureusement, dans cette période d'attentat, c'est ce qu'il faut faire aussi en cas de blessé par balle.
C'est blessé par balle, c'est exactement la même chose. Sauf après, si donc on a des hémorragies, c'est-à-dire une perte de sang importante, dans ce cas-là, il faudra arrêter le saignement. Si ça ne s'arrête pas tout seul, soit par une compression manuelle, donc on appuie sur la blessure, très fort. Si on peut rester comme ça en attendant les secours, ça suffit, on attend les secours. Maintenant, si on doit se libérer pour aller prévenir les secours, ou malheureusement, dans l'actualité, s'il y a beaucoup de victimes, soit on fait un pansement compressif, c'est-à-dire qu'on remplace notre main par un bout de tissu qu'on a, un t-shirt, fort, une écharpe, quoi que ce soit. Et si on peut, on fait ça et ça suffit. Et si ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas le faire ou parce qu'il y a un objet dans la plaie ou quoi que ce soit, on fera ce qu'on appelle le garrot. Alors le garrot, on ne le fait pas n'importe quand, on ne le fait pas systématiquement, on le fait uniquement s'il n'y a pas d'autre solution.
Mmh.
Le garrot se fait pour le membre supérieur, toujours entre le coude et l'épaule.
D'accord.
Et pour le membre inférieur, entre le genou et l'aine.
Oui, donc avec une écharpe.
Avec une ceinture, un lien large, non élastique et non tranchant. On vient serrer très fort pour arrêter le saignement. En fait, ça compresse l'artère contre l'os et ça arrête le saignement.
Donc ça, c'est vraiment s'il n'y a pas d'autre solution, est tout seul qu'il y a plusieurs victimes.
Donc on fait ça, on allonge notre victime au sol et on note l'heure à laquelle on a posé le garrot. Ce sera important pour le médecin après.
Noter l'heure, c'est-à-dire si on a un stylo, on note
sur la main, sur le tissu du garrot, on se le note dessus, puis quand les pompiers arrivent, on leur donne l'heure à laquelle on a posé le garrot.
Donc ça sera utile pour le
service médical après,
ensuite.
Pour le médecin ensuite, pour pouvoir retirer le garrot.
Pour les saignements, on a dit l'essentiel.
Oui, je pense.
Bon. En cas d'un blessé qui est conscient, qui nous réclame à boire, est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut jamais donner à boire à un blessé ?
C'est vrai. Avant de lui donner à boire, il faut avoir un avis médical. Tout simplement, puisque si après, il y a une opération à faire, de recoudre ou d'autres soins à faire, le fait de lui donner de l'eau pourra retarder l'opération. Donc, avant de donner à boire à un blessé, on demande un avis médical.
On va terminer avec les accidents de la route. Quelle est la conduite à tenir quand on arrive en premier sur un accident de la route ?
Alors, la première chose à faire, c'est la protection. Se protéger déjà soi-même, donc en mettant notre véhicule sur le bas-côté et en mettant notre gilet haute visibilité, et signaler l'accident aux autres personnes arrivant sur la route, en mettant le triangle de signalisation. Donc, entre 150 et 200 mètres, on est sur des routes à grande circulation, et 50 mètres si on est dans les routes en ville.
Oui.
Ensuite, il faudra aller voir au niveau des véhicules accidentés, en coupant le contact, si on peut, donc juste enlever la clé, éviter les gens qui sont autour de fumer, et si on a un extincteur dans le véhicule, le sortir et le mettre à proximité des véhicules accidentés. C'est la première chose à faire au niveau de la protection.
Oui.
Et ensuite, appeler les secours.
D'accord. Et les victimes, on les laisse à l'intérieur, sauf si la voiture s'embrase. C'est le seul cas de figure où on a le droit de sortir une victime soi-même.
Tout à fait. Si le véhicule est en feu, donc on essaiera de sortir la victime. Sinon, on la laissera dans le véhicule, sauf également si elle a un arrêt cardiaque, qu'il faut faire des gestes de secours. Dans ce cas-là, on la sortira du véhicule, puisqu'on ne peut pas faire de massage cardiaque dans un véhicule.
Vous parliez d'extincteur. Il y a beaucoup de particuliers qui ont un extincteur dans leur voiture ou chez eux, à la maison ?
Non, il y a très peu de personnes qui ont des extincteurs chez eux ou à la maison. Déjà, dans les véhicules, très peu. Les seuls qui les ont forcément, c'est les poids lourds, puisque eux sont obligés d'en avoir un par rapport à la réglementation.
Si on veut s'acheter un extincteur, comment le choisir ? Parce qu'il y en a souvent, quand on va dans les magasins de bricolage, on en voit, ils font une quarantaine de centimètres de haut. C'est utile ou pas, ces extincteurs ?
Oui, c'est utile. Ça peut toujours permettre l'extinction d'un début de feu. Maintenant, si c'est pris tout de suite. Par contre, le feu, dès qu'il ne peut plus être maîtrisé, il ne faut pas essayer de l'éteindre avec un extincteur puisqu'on risque de se blesser. Il faut prévenir les secours et sortir de la maison ou du véhicule qui est en feu.
Justement, la maison, la plupart des gens, quand faut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, il y a un incendie d'habitation toutes les 2 minutes en France. La plupart des novices se méfient des flammes, mais pas des fumées. Pourtant, ce sont bien les fumées qui causent le plus de morts lors d'un incendie.
Tout à fait, ce sont les fumées qui blessent ou qui tuent, puisque c'est les fumées qui intoxiquent les personnes et qui donc les étouffent, si on ne les prend pas en compte.
D'où l'intérêt d'avoir les détecteurs de fumée obligatoires, mais que beaucoup n'ont pas encore.
Oui, tout à fait, c'est très important ces détecteurs, puisqu'en effet, c'est vraiment les fumées qui blessent et qui tuent les gens. Donc ce qu'il faut, si vous avez un feu chez vous, c'est sortir, et faire sortir tout le monde et prévenir les secours.
Et l'air pur est toujours... près du sol.
Tout à fait, l'air pur est toujours près du sol.
Pas hésiter à se mettre à quatre pattes. Ouais. Merci Sébastien Georgiades des sapeurs-pompiers de Champagne-Ardenne d'avoir répondu aux nombreuses questions ce matin des auditeurs de France Bleu Champagne-Ardenne. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et on va rester dans les pompiers dans un instant avec le témoignage d'une femme qui était prof d'EPS, qui est devenue officier chez les sapeurs-pompiers, qui a aujourd'hui près de 100 hommes sous son commandement. Et son témoignage sur France Bleu, c'est dans 3 minutes.
Les experts arrivent. Écoutez en podcast sur francebleu.fr.